les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Le public a apprécié les films du commandant Cousteau. Désormais, nous étions en 1978, il faut les amener sous l'eau pour des tours d'observation sous-marine, évidemment. Pour envisager des maisons pour poissons. Après tout, les hommes ont bâti sur terre des étables, pourquoi ne pas créer des fermes sous-marines? Et pourquoi ne pas se laisser aller à la passion des profondeurs, même si, plus on descend, plus, hélas, certaines couleurs disparaissent de notre vision? Jacques Rougerie, architecte océanographe, était l'invité de Jacqueline Kellen pour une série de chemins de la connaissance intitulée « Dans l'affairement des eaux ». Jacques Rougerie, qui, plus tard, allait réaliser de nombreux musées et centres de la mer, à Kobe, à Brest, à Boulogne-sur-Mer, etc. Première diffusion sur France Culture, le 14 juin 1978.
Jacques Rougerie, vous êtes architecte et vous avez fondé le CAM, le Centre d'architecture de la mer. Et il y a une dizaine d'années déjà, vous aviez projeté la création d'habitats sous-marins. En quoi consistait-il ?
Il y a une dizaine d'années, ce n'était pas exactement des habitats sous-marins, c'était des fermes, plus exactement, des fermes qui n'étaient pas d'ailleurs sous-marines. C'était des fermes pour traire les baleines. Donc c'était très futuriste, très science-fiction. Ça m'amusait beaucoup, je reconnais. D'abord, le thème m'amusait beaucoup moins, dans un autre sens. C'était la grande époque en 67 d'une intervention auprès des Nations Unies pour essayer de limiter la pêche et la chasse à la baleine, exactement. Et moi, j'avais essayé d'imaginer un vieux projet. D'ailleurs, l'idée ne vient pas de moi. Il y a des tas d'écrivains de science-fiction. Enfin, il y a surtout Arthur Clarke qui avait écrit un roman de science-fiction il y a très longtemps là-dessus. J'ai retrouvé des écrits d'un évêque ou plus exactement un moine qui s'était passionné pour les mammifères marins en 1760 et qui avait déjà pensé lui aussi aux fermes à baleines. Donc j'étais loin, très très loin d'être le seul à avoir cette idée. Mais ce que je voulais, c'est voir comment reconvertir ces pêcheurs, ces chasseurs de la baleine, les reconvertir. Et donc j'avais imaginé des fermiers, les reconvertir en fermiers. Passer de ce monde de la chasse, si vous voulez, à un monde de fermiers. D'agriculteurs.
Un monde plus fraternel.
Oui, en quelque sorte.
Vous avez réalisé, je crois, des écloseries de poissons.
Oui, alors ça, c'était un des axes. Bon, on a défini quatre axes. Premier axe d'action, c'est le domaine aquacole, tout ce qui est le développement aquacole. Bon, dans cet axe, il y a les écloseries. Il y avait plusieurs façons d'aborder le problème. Il y avait le côté très terre-à-terre, si j'ose dire, c'est-à-dire les écloseries créées sur le littoral. Il y avait un développement en 1972-73. J'ai eu la chance de pouvoir réaliser deux écloseries qui fonctionnent à l'heure actuelle, une à Venise et une en Espagne. Et parallèlement, on a développé un axe beaucoup plus futuriste qui sont les fermes flottantes et les fermes sous-marines avec des groupes américains d'Hawaï. Bon, ça, c'est le premier thème. Le deuxième thème que nous avons développé, c'est la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, c'est-à-dire créer des engins pour les scientifiques. Un certain nombre d'engins. On a commencé par l'étude d'une maison sous-marine, un refuge, en 72-73, puis un engin beaucoup plus sophistiqué et perfectionné qui descend à 4000 mètres de profondeur, et d'autres engins. Le troisième thème, c'est au niveau culturel et touristique. Il y a un engouement et un essor qui se développe de plus en plus à ce niveau-là, surtout aux États-Unis et au Japon, ce sont les tours d'observation sous-marine. Malheureusement, en France, on n'est pas très bien pourvu toute l'année pour visiter les fonds sous-marins. Enfin, personnellement, je trouve qu'il y a de très belles choses à voir, mais pour développer de tels projets, c'est relativement limite. Alors, on a développé, nous, on nous sommes intéressés à ces structures, c'est-à-dire d'amener le maximum de personnes sous l'eau, étant donné qu'on considère que les films de Cousteau ont été la première démarche, d'ailleurs fantastique, une première prise de conscience et de connaissance du milieu sous-marin. Et maintenant, je crois qu'il fallait plus loin que Cousteau, c'est amener les gens sous l'eau. Mais les amener sous l'eau, il y a deux stades. Moi, j'aimerais bien les amener sous l'eau physiquement. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible au niveau physiologique et puis pour d'autres raisons psychologiques aussi. Donc, je crois qu'il y a quand même un stade intermédiaire, c'est de les amener sous l'eau sans contrainte. Et les amener sous l'eau sans contrainte par des tours d'observation sous-marine. Alors, nous avons fait donc un certain nombre de projets à ce niveau. Et il y a le quatrième secteur que nous avons beaucoup moins développé, qui est le secteur industriel, mais qui a beaucoup d'avenir, je pense, c'est tout l'aspect des minerais sous-marins ou pétroliers.
Vous construisez également ou vous projetez de construire des maisons pour les poissons eux-mêmes?
Oui, des récifs artificiels. On a fait un certain nombre d'expériences, et notamment il y a eu pas mal d'expériences de faites au Canada et aux États-Unis sur des récifs artificiels, c'est-à-dire des maisons pour des poissons. Et moi-même, depuis 4 ans, je me suis beaucoup passionné pour ça parce que bon, les poissons ont des mœurs, ont des comportements sous l'eau en fonction des espèces qui varient. Et ça donne une variété de récifs, donc d'habitats à poissons, extraordinaire. Et je pense que d'ici 10 ans, il n'est pas impensable de voir à travers le littoral des récifs s'implanter pour des habitats à poissons, de la même façon que les hommes sur la Terre, au niveau de l'élevage, ont fait des étables. Donc, on va faire des étables sous-marines.
Mais il s'agit de rochers. Quels sont les matériaux
utilisés? Non, pas du tout. Non, il s'agit de sculpter soit dans du béton, soit dans des pneus, soit dans des carcasses de voitures. Bon, d'amener un habitat.
Comment expliquer cette fraternité avec les poissons? Ou est-ce une curiosité? Je pense au roman d'Alexandre du XIVe siècle qui a été illustré. Et on voit Alexandre qui se fait descendre dans un tonneau de verre afin de voir les poissons.
Oui, ça c'est un projet qui est magnifique d'ailleurs. Et là aussi, une fois de plus, on voit qu'on n'est pas les seuls à avoir imaginé. Je viens de réaliser, il y a donc 3 semaines, vous parlez du projet Aquabulle. C'est exactement la concrétisation du projet d'Alexandre, qui voulait aller voir dans un tonneau transparent les poissons. Et je crois que moi, c'est surtout l'aspect qui m'intéresse le plus, c'est les poissons. C'est la faune marine, c'est ce qui s'y passe. Beaucoup plus que l'aspect industriel dont je vous parlais tout à l'heure.
Si l'homme habite la mer, peut devenir paysan de la mer ou hôte des mers ou de l'eau et jouer avec les dauphins ou les poulpes, comment peut-il s'adapter? À quelle profondeur est-ce que la lumière est importante?
Il y a des gens qui ont cru à la technologie. Bon. C'est-à-dire, c'est par exemple la Comex qui développe les plongées profondes poussé avec une technologie de pointe. Et puis, vous avez une autre façon de pénétrer le monde sous-marin, c'est la recherche que fait Jacques Mayol, ou des groupes américains avec qui il travaille, c'est-à-dire l'apnée, descendre sans artifice et adapter progressivement, en plusieurs générations, l'homme au milieu sous-marin. Et il y a des expériences qui se poursuivent depuis une dizaine d'années, à ce niveau-là, sur l'apnée, sur des bébés plongeurs. On pense, si on écoute Jacques Mayol et un certain nombre de scientifiques sérieux, on pense que l'homme, d'ici 20 ans, sera capable de rester sous l'eau pas loin de 15 minutes. Si sous l'eau, on imagine, on essaye d'aller encore plus loin, d'imaginer des cloches, tout un parcours, une rue sous l'eau, faite de cloches, d'air, et les gens n'auraient plus besoin de bouteilles, il ne serait pas question de leur fixer dans des branchies, mais les gens iraient de bulle en bulle, comme ça, pendant un quart d'heure, ils pourraient évoluer.
Ce serait un grand collier de perles.
Si vous voulez, exactement, ça peut être un grand collier de perles. On peut imaginer des tas de choses à ce niveau-là.
Mais on imagine quand même difficilement que l'homme puisse se passer de lumière ou du soleil.
Il est certain que la partie qui intéresse le plus l'homme à l'heure actuelle, c'est de 0 à 60 mètres. Pourquoi ? Parce que d'abord, la faune elle-même, la plus variée, se situe dans cette zone à cause des problèmes de lumière. Et d'autre part, il ne faut pas oublier que c'est une très grande contrainte. Hein. D'autre part, il ne faut pas oublier que les couleurs disparaissent. Ça, c'est une donnée aussi fondamentale. C'est-à-dire que dès que vous descendez en dessous de 3 mètres, eh bien, les couleurs changent. Le rouge se ternit, et ainsi de suite. Le jaune disparaît. Un certain nombre de couleurs disparaissent jusqu'à 60 mètres. Puis d'autre part, il y a le phénomène de pression. Mais le phénomène de pression, c'est moins grave dans un sens, parce que le phénomène de pression, étant donné que la plupart des maisons sous-marines, et même 90% des maisons sous-marines que nous avons étudiées ou que des groupes comme la NOAA a étudié aux États-Unis ou la NASA, sont pressurisées, c'est-à-dire qu'on équilibre la pression interne par rapport à la pression externe, ce qui fait que les gens peuvent sortir autant de fois qu'ils veulent. Même, on pourrait imaginer, ce que nous envisageons pour l'année prochaine, c'est de faire un habitat en structure gonflable sous-marine, à 60 mètres de profondeur. C'est très possible.
Sur les eaux ou sous la mer, on ne bâtit pas en dur, il me semble. On n'établit pas une demeure. Il me semble que la maison que vous envisagez est mobile, mouvante et surtout provisoire. Et cette maison provisoire, fragile, non amarrée, a souvent des formes courbes, accueillantes.
Oui, fragile, c'est... Elle vous donne cet aspect, fragile ?
Fragile, il me semble qu'on ne pénètre pas dans l'eau, on ne la blesse pas, on s'y glisse, on s'y berce, c'est toujours une image de bulle qui vient à l'esprit.
Très joli. C'est très joli, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument trouver des habitats pour l'homme qui s'adaptent au milieu, au maximum. C'est-à-dire qui s'adaptent à ces trois dimensions que représente le milieu marin pour l'homme. Donc il est certain que un certain nombre de concepts qu'avait l'homme au niveau de la Terre disparaissent, parce que sur la Terre, l'homme marche en deux dimensions. Ne serait-ce que quand il pénètre dans un habitat, il y a une porte qui a une certaine forme, et bien sous l'eau, il faut qu'il perde ces notions. À tel point que j'ai vu un projet américain, aux îles Vierges, où ils ont fait cette erreur. Ils n'y ont pas pensé. Ça paraît aberrant, mais pourtant c'est vrai. Pourtant, un projet qui a coûté fort cher. Un projet où ils avaient fait la porte de la même façon que si ça avait été une architecture terrestre. Et ça, c'est dommage. Ça prouve que les ingénieurs qui ont fait cette maison ne se sont pas du tout mis dans la peau des aquanautes.
Bon. Oui, j'ai vu certains de vos dessins et on dirait de grandes méduses ou des anémones de mer.
Oui, c'est pas, contrairement, alors là je me permets de préciser ça, c'est pas du tout des dessins de science-fiction ou non. Des dessins de design. C'est là aussi, on revient sur ces notions, c'est un milieu qui est tellement nouveau, qui est tellement différent de la Terre. Et on a essayé de faire une approche de ces trois dimensions, du comportement que l'homme pourrait avoir au sein de ce milieu, comment intégrer ce milieu à la structure elle-même, à l'habitat, ce qui fait qu'on arrive à des formes qui paraissent très futuristes et qui ne sont pas du tout futuristes.
Comme il s'agit d'une maison ouverte, une maison de communication, une maison disponible par excellence, un lieu d'échange entre les hommes et les poissons, on retrouve ce fameux tonneau de verre d'Alexandre, un lieu d'osmose entre le sel du sang peut-être de l'homme et le sel de la mer. Il s'agit peut-être d'une quête de la transparence.
Oui, en effet, il est important que les structures sous-marines soient le plus transparent possible pour, là aussi, une fois de plus, intégrer un maximum le milieu marin.
Je pense à une nouvelle de Cortazar, les axolotls, et au bout d'un certain temps, celui qui regarde les poissons derrière la vitre de l'aquarium se demande si ce ne sont pas les poissons étranges qui le regardent.
Oui, absolument.
C'est une maison sans serrure, il me semble, la maison du poisson, la maison sous la mer.
En effet, on y pénètre... Au bout d'un moment, même s'il y a cette séparation entre l'air et l'eau, c'est elle qui fait la séparation. Mais on doit arriver à faire une architecture... On ne sent plus de séparation haute que l'air et l'eau. La seule contrainte pour l'homme, c'est l'air. Et je crois que c'est déjà une contrainte énorme et on ne doit pas lui mettre d'autres contraintes au niveau des matériaux. Donc la serrure disparaît.
C'était Les chemins de la connaissance dans l'affairement des eaux par Jacqueline Kellen avec l'architecte océanographe Jacques Rougerie. Première diffusion sur France Culture le 14 juin 1978. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.